au nom de l'État français et sur proposition de Monsieur le Président du Conseil, Jacques Chirac, le décidé d'honorer Son Excellence Monsieur Kim Il-sung en lui décernant le Grand Prix de la ville de Vichy. Travail, famille, patrie et bon loc.
Oui, bonjour. Je voudrais répondre à la première personne qui s'étonnait qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions suite aux premières émissions sur Bamako. Moi aussi, je suis toujours étonnée de ce qu'il y ait peu de réactions et peu de soutien vis-à-vis des Africains en général, et j'ai un peu réfléchi à la question. Et voilà mes conclusions. Je pense que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend que l'Afrique, c'est égal la misère. Et qu'on nous a jamais appris que les Afriques, c'était souvent les pays riches qu'on avait, nous, nos pays, nos représentants, nos ancêtres, exploités, et que s'ils étaient pauvres aujourd'hui, c'est qu'on y est quand même pour quelque chose. Pas nous individuellement, mais collectivement. Alors déjà, il y a tout ce point de vue-là. D'un autre côté, donc, Afrique égale pauvreté. En plus, la peur de la pauvreté, c'est vraiment un truc qu'on nous met dans le crâne depuis qu'on est tout petit, et il faut fuir la pauvreté absolument, et voilà, et on préfère pas voir que s'impliquer là-dedans, parce que de toute façon, on se sent impuissant. Et je pense que c'est tous ces sentiments mélangés qui font que, eh ben, il y a pas grand monde aujourd'hui pour dire il faut aider l'Afrique autrement que par des aides misérables. Et d'ailleurs, pour répondre au monsieur qui aimerait bien voter à gauche, en ce moment, il y a un gros débat quand même sur les candidatures unitaires. Et il y a une des candidates qui s'appelle Clémentine Autain qui ose quand même écrire que pour aider, pour aller à l'encontre de tous ces problèmes, il suffit d'honorer les engagements pris en matière d'aide et de solidarité en faveur du Sud. C'est extrait d'un article sur son blog. Hein. C'est « Cette droite mérite une bonne gauche ». Alors, si on en est là, à gauche, honorer les engagements en matière d'aide et solidarité en faveur du Sud, c'est vrai qu'on c'est pas gagné. Hein. Hein. Si on n'ose pas s'attaquer à toutes ces sociétés qui continuent à piller l'Afrique en notre nom, c'est sûr qu'on n'est pas prêt d'arriver. Et en autre truc que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait enfin se rendre compte que le fait que nos enfants fréquentent des enfants africains dans les écoles, dans les cités, partout, ben moi, je pense que c'est une richesse. Une richesse, le mélange des cultures, c'est une richesse. Et je pense que mon fils, il est moins con. Ça lui ouvre l'esprit de rencontrer des enfants qui viennent d'Afrique, de d'autres pays, de d'autres continents. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, je suis en train d'écouter l'émission sur l'Afrique. J'y ai travaillé en Afrique, principalement au Burkina, au Côte d'Ivoire, au Niger, et au Gabon. Je tiens à dire que depuis De Gaulle, même avant, la France a beaucoup plus profité de l'Afrique que l'Afrique ne lui a coûté. Et ça, je ne peux pas tout détailler ici, bien entendu. Voilà, merci.
Oui, Philippe Achatou. Bon, salut à Daniel, à toute son équipe, et bravo pour votre travail. Bon, j'ai écouté l'émission d'aujourd'hui, lundi, là, sur la pauvreté en Afrique et les problèmes d'immigration avec beaucoup, beaucoup de scepticisme. Pourquoi ? Parce que je constate qu'une fois de plus, les Africains sont présentés et se présentent souvent comme d'éternelles victimes, rigoureusement impuissantes face à leur destin. Bon, bien sûr, personne ne peut sérieusement douter des dégâts immenses causés hier par la colonisation et la mondialisation aujourd'hui. Mais diable, qui signe les contrats iniques au profit des sociétés et États occidentaux ? Des Africains corrompus, avides d'argent et se moquant bien du bien-être de leurs concitoyens. Qui gouverne ces pays ? Des Africains qui auraient pourtant la possibilité d'instaurer un protectionnisme, à mon avis, intelligent comme celui des États-Unis ou celui des quatre dragons asiatiques, extrêmement pauvres dans les années 70, et qui ont protégé leur marché pour s'en sortir. Alors pourquoi l'arme des matières premières, si bien utilisée par Poutine, est-elle inutilisable au profit des Africains ? Aider l'Afrique, c'est, à mon sens, aider à former des ingénieurs, des médecins, des juristes en Afrique, car les solutions des problèmes des Africains sont en Afrique. Donc, je dis, moi, bien sûr, il faut essayer d'accueillir les Africains, mais à condition de leur donner une formation, de leur enseigner la langue, et de ne pas se contenter de tamponner un passeport et de détourner la tête ensuite. Et je me demande, est-ce que l'avenir des Africains, c'est de venir en Europe pour trouver des petits boulots, être exploités, dévalorisés et humiliés ? Donc pour cela, il faut des moyens matériels et humains, et là, ce ne sont pas illimités. CQFD. Bon, allez, salut à tous.
L'Eldorado des retraités français.
Dimanche économie.
Le Maroc attire une nouvelle clientèle, celle des retraités français. Il serait aujourd'hui plusieurs milliers à avoir choisi de résider dans le royaume. Afin d'encourager leur installation, les autorités mettent en avant les mesures fiscales avantageuses dont ils peuvent bénéficier.
J'ai écouté ça sur RFI. Je trouve que c'est carrément gonflé dans la mesure où les gens qui veulent retourner dans leur pays, des retraités qui ont travaillé et cotisé en France, qui veulent retourner chez eux, ben, on leur diminue leur retraite en fonction du niveau de vie du pays d'origine. Alors que ben là, c'est exactement le contraire qui se passe. Donc, encore une fois, deux poids, deux mesures. Voilà, c'est Marianne de Montpellier.
Bonjour, je suis au collectif 13 droits des femmes et l'émission de Bamako m'a fait penser au problème qu'on rencontre actuellement avec une rédactrice journaliste de l'ORTM, Aïssata Sissé, qui avait une idée de monter une radio FM pour d'information pour les femmes, de lutte contre la pauvreté, la santé, l'éducation sexuelle. Elle voulait faire une campagne contre les mutilations et également des conseils pour le sida, etc. Bon, bien entendu, il lui manque le matériel. On lui a bien donné un matériel qui était obsolète. Donc, nous ici, au collectif, quand on l'a rencontré le 8 mars 2005, on a décidé de l'aider. Donc, on a fait tout ensemble des démarches avec la Fondation de France, avec des banques, même des banques mutualistes qui ont des réseaux internationaux et tout ça. Et depuis avril 2005, on n'a que des avis négatifs sur le projet. Vous savez que la radio à Bamako, enfin dans tout le Mali, c'est quelque chose qui est c'est un vecteur de communication très très important. Donc, je voudrais dire aux amis de là-bas si j'y suis, parce que tous les auditeurs sont un peu nos amis, puisqu'on défend tous le même genre de société, s'ils ont une idée, de nous l'envoyer au collectif 13, en chiffres, droit des femmes, droit au pluriel des femmes, tout collé, @wanadoo.fr. Collectif 13, droit des femmes, @wanadoo.fr. Voilà, j'espère que j'ai été dans les 2 minutes. Et merci à Daniel Mermet et à son équipe. Vivre, c'est aussi résister. Bye.
Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va sérieusement résister en s'intéressant à l'eau. Oui, alors ça, c'est vraiment une chose que nous partageons tous. S'il y a une chose qui n'est pas une chose d'ailleurs, qui est un élément vital et qui n'est pas une marchandise, c'est bien l'eau. Or, il y a une guerre de l'eau, l'air de rien, oui, l'eau de rien, dans notre bel hexagone. On assiste à une remunicipalisation de l'eau. Et ça nous intéresse, et j'espère que ça va vous intéresser, jusqu'à 16h, dans là-bas si j'y suis, après le début que voici.
Est-ce qu'on fait payer l'air en France? Pas pour l'instant. Aux États-Unis, l'eau est une affaire municipale. Il n'y a pas d'eau privée aux États-Unis. Il me semble pas que les États-Unis soient un exemple de gauchisme exacerbé.
Donc là, vous avez une facture, mais c'est une facture municipale.
Ah oui, c'est la municipale. Alors maintenant, vous voyez, tout nouveau net, je paye que 50 euros.
Voilà. Donc vous avez divisé votre facture par 3, presque.
Ah oui, facilement. Facilement.
Bon, moi, je vous dis, aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière. Je ne reviendrai pas dans le privé. Parce que, je vous dis, vous avez affaire à des banquiers. On travaille... C'est des banquiers qui dirigent des sociétés. Comme je vous disais, on leur parle d'une bouche à clé, d'une vanne, d'un tuyau, de polyéthylène ou PVC. Ils vous regardent avec des... On est carrément à l'autre bout de la réalité, quoi. Voilà. Et tout ça pour satisfaire des actionnaires derrière.
Veolia.
Rennes, c'est Veolia Town, quoi.
Sur Rennes, en fait, on s'aperçoit que ils ont la moitié du chauffage urbain sur Rennes. Ils détiennent l'eau, on l'a dit. Une partie à travers le jeu des filiales aussi, des transports donc de bus, Netraonic, c'est-à-dire tout ce qui est déchets, et l'usine de tri des déchets. Donc je ne sais pas si on se rend compte que là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui reste aux citoyens, aux élus ?
Veolia, l'environnement est un défi industriel.
C'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec François Ruffin, la bataille de l'eau.
Flight number 2, arriving from New York.
€3,65 au lieu de 2,90 euros. Voilà ce que le mètre cube d'eau devrait m'être facturé. 2,90 euros au lieu de 3,65 euros. Il y a quand même des choses plus importantes dans la vie, hein, pinailler sur des factures d'eau, défendre le consommateur, nous réduire à cette désolation consommateur, domestiquer toute révolte, détourner toute rébellion vers le que choisir entre deux bottes de foin, deux portables, un bonnet blanc ou un blanc bonnet. Il y a quand même des choses plus importantes. Oui, bien sûr qu'il y a des choses plus importantes. Il faut peut-être rappeler qu'il y a 1,5 milliard d'êtres humains qui, sur cette planète, à l'heure où je vous cause, n'ont pas accès à l'eau potable. Il faut savoir que 2,5 milliards ne bénéficient d'aucun système d'assainissement. Il faut savoir que 5 millions de personnes dans le monde, surtout des femmes et des enfants, meurent chaque année pour des problèmes liés à la qualité de l'eau. 5 000 enfants meurent chaque jour des suites d'une maladie liée à la mauvaise qualité de l'eau. Pourtant, les ressources en eau suffisent pour l'instant, mais pollution, mais réchauffement de la planète, mais captation de ce bien vital. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'eau de façon générale, planétaire, mais on va se limiter à notre petit hexagone. Et dans notre petit hexagone, on constate, si l'on lit les statistiques de l'INSEE, les chiffres fournis par l'INSEE, qu'en 10 ans, le prix de l'eau a grimpé de 40%. C'est ce que dit aussi la Cour des comptes, augmentation de 30% entre 1995 et 2003. Surprenant. Surprenant car il y a en matière d'eau une exception française. Alors que on l'a entendu dans les propos qu'on vient de diffuser, la majorité des pays du monde ont une gestion de l'eau par les États, par les pouvoirs publics. Chez nous, à plus de 70%, l'eau est gérée par de puissantes multinationales, General des Eaux, Lyonnaise des Eaux, ou la SOR, filiale de Bouygues. On ne dit plus Lyonnaise des Eaux, on dit Ondéo. On ne dit plus General des Eaux, devenu Vivendi. On ne dit plus Vivendi, on dit Veolia. Mais tout ça, c'est la même chose. Or, c'est une exception française. Et cette exception française en agace plus d'un, en étonne plus d'un parmi ceux qui, loupe en main, regardent leur facture d'eau et qui se demandent pourquoi on paye, pour qui l'on paye et qu'est-ce qu'on paye. Ça dure depuis quelques années et aujourd'hui, il y a un certain nombre de municipalités qui ont décidé de remunicipaliser la régie de l'eau. Alors que, bien sûr, depuis bientôt un quart de siècle, on privatise, c'est irréversible la privatisation, c'est moderne, c'est comme ça, c'est dans le coup, on n'y peut rien, et tout ce qui est de domaine public est ringard, est archaïque, français, qui s'agrippe encore et qui s'agit de moderniser, qui doivent... Eh bien, voilà, la modernité, elle serait peut-être, enfin en tous les cas pour ce qui concerne l'eau, de remunicipaliser. Et c'est un mouvement quand même assez surprenant, dont on parle guère finalement, par rapport à l'importance de ce qui n'est pas une marchandise, mais un bien vital, que ça nous a intéressés, et l'on espère vous y intéresser aussi, avec François Ruffin, jusqu'à 16h, dans la Bastille qui suit.
Quand les cigares échangeront de bouche, quand les starelles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin. Quand les gibus y changeront de tête, quand les bagouses elles cangeront de doigts, quand l'homari changera de fourchette. Les employés, on sera les rois.
Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. un employé, un bas salaire. C'est une chose à pas oublier.
Oui, mais...
Mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors là dit, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront demain, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tiette, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'homère il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
La 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 la, les PDG.
Ici, ça s'appelle les Buffins, donc c'est là où nous habitons. C'est le siège social de Barrage, mais c'est la maison d'habitation. Les Buffins, en patois, en occitan, c'est cabufort, ça souffle. Donc c'est la langue occitane, ça souffle, c'est parce que nous sommes tout à fait en haut d'une colline et on est la première vraie colline depuis la mer. Donc quand le vent vient, il y a toujours un peu de vent. Et quand il vient du nord, quand il fait froid, il vient vraiment du nord, il fait vraiment froid.
Donc dans la salle à manger, les chaises, c'est voilà. Pas des chats dessus, c'est des dossiers, quoi.
Les problèmes de pollution avec les usines. Là, l'autre, c'est les antennes. Donc on manque de chaises, quoi, pour tous les dossiers.
Alors voilà, la dame c'est Michel et le monsieur c'est Yvan. Et ils s'appellent tous les deux Tricard. Voilà, c'est ainsi. Et nous sommes à Palais-sur-Vienne, dans la banlieue de Limoges. Et qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, nous sommes au siège, amis auditeurs, de l'association Barrage. Et pourquoi? Eh bien, comme son nom l'indique, l'association Barrage entend faire barrage à la privatisation de l'eau, à la régie déléguée à des grandes, assez grandes sociétés. C'est vraiment s'attaquer à d'énormes puissances que sont ces grandes sociétés, Veolia, Ondéo, Lassor, etc., qui contrôlent l'eau dans notre pays, et pas seulement l'eau, c'est aussi bien les médias, les pompes funèbres, le transport urbain, tout ce qui est de l'ordre des services publics sont contrôlés de près ou de loin, mais c'est souvent de très près par ces grandes sociétés. C'est dire si, aussi courageux que soient Michel et Yvan, ils ont bien du courage. Eh bien, il arrive que le courage soit récompensé. Ma maman disait toujours, le courage est toujours récompensé. J'en suis pas si sûr, mais en tous les cas, là, eh bien, il y a une récompense, c'est qu'ils sont battus, ils ont regardé leur facture d'eau de très près, et ils se sont aperçus qu'il y avait des choses un petit peu irrégulières, et ils se sont organisés avec des pétitions, avec le bulletin municipal, avec toute une action d'association militante, et ils ont obtenu que au Palais-sur-Vienne, on remunicipalise la régie de l'eau. Récit.
Alors, comment vous avez décidé de la lancer, cette association?
Je crois qu'il y a toujours une part d'hasard au départ. On se trouvait donc dans le midi chez des amis, donc à côté de Toulon, et on s'est trouvé en pleine bataille pour l'eau. Ils se battaient sur le prix de l'eau face à la Société Générale. Franchement, ça m'a sauté aux yeux en disant « Attends, les problèmes qu'ils posent ici, on a les mêmes, nous, ici, au palais. » Et quand je suis revenu au palais, donc à la fin des vacances, on a ressorti toutes les factures, et c'est là où on découvre avec stupeur qu'on payait l'eau au palais plus cher qu'à Saint-Tropez, quoi. Donc on avait des... Alors, dans le Var, ils n'ont pas d'eau. Ils amènent l'eau par le canal de la Durance. C'est le barrage de Serponçon. C'est des travaux considérables. Nous, on se trouve dans une région qui est pleine d'eau. La région des Mille Sources, c'est le plateau de Mille Vaches. Il y a de l'eau, il y a des sources partout. Et on payait l'eau au palais entre 25 et 26 francs. C'est-à-dire qu'on était un à deux francs de plus que dans le Var, ou avec tous les travaux. Voilà.
Alors voilà une facture de la sorte. Vous regardez une facture de la sorte et vous constatez quoi sur votre facture?
Alors, sur la facture de la sorte, ce que je constate, j'ai une facture de 93. Alors, pour, je paye 2 euros le mètre cube et en 2000, la facture est passée à 3,92 euros. Donc, en 10 ans, ils ont doublé le prix de l'eau, mais on s'y habitue.
Vivendi crée ce qui vous change la vie.
Oui, alors qui vous change la vie, je suis pas statisticien, mais je me demande si beaucoup de Français regardent à la loupe leur facture d'eau. Ceux qui habitent dans les appartements, ça fait partie des charges qu'ils payent de façon forfaitaire, sans trop s'intéresser à ces détails. Sauf que ces détails auxquels on s'intéresse pas, certains s'y intéressent, et notamment ces grandes compagnie. Au Palais sur Vienne, la régie de l'eau a été privatisée en 1992, et voilà, la remunicipalisation a eu lieu pour la satisfaction de tous en il y a 2 ans, voilà, et ça marche très bien. La preuve, visite chez un voisin, les Sénigoux.
Oui, bon.
Salut.
Donc, monsieur Sénigou est.
Je suis à la retraite depuis le mois de septembre.
Depuis le mois de septembre.
Et donc là, vous ramassez le bois mort de ce matin.
Ben, ça a soufflé. Hein. Les branches mortes qui tombent, elles sont rouillées. Vous voyez, elles sont brûlées, quoi, d'acide.
Ouais.
C'est dingue. Hein. L'eau, bon, ils se sont battus pour les Palaisiens, pour qu'ils puissent avoir de l'eau au meilleur marché. Et d'après les factures, ben, elle a tout préparé, ma femme, ben, à vous, vous montrer ça, on y trouve notre compte, hein, que ce soit plus la sorte.
Hein. Et vous étiez...
Ah, moi, j'étais... L'eau, pour moi, doit être municipale, pas confiée à des sociétés privées, ça.
Par principe.
Ah, non, c'est principe, oui. L'eau, c'est un élément primaire, vital, pour tout homme de la Terre, et ce doit être... pas confier à des sociétés privées qui sont là pour le profit. Moi, je suis désolé. Bientôt, on va confier l'air qu'on respire à des sociétés privées. On se bat pour avoir du bon air maintenant. Mais c'est dingue, ça.
Vous vous battez pour avoir du bon air?
Au palais, oui. Eh bien, pour que l'air du palais ne soit pas pollué. Mais bon, l'eau était devenue de plus en plus chère au palais. Il faut dire ce qui est. Vous allez le voir, facture à l'appui avec ma femme. Elle relève tout. Alors...
Alors vous avez sorti un petit papier, vous avez déjà tout calculé.
Écoutez, moi, il faut...
Donc, je vais simplement vous parler de ma dernière facture d'eau lorsque c'était la sorte. Et en 2002, par exemple, ma facture était de 466 euros pour 107 mètres cubes. Voilà. Alors, si je compare maintenant... Alors, ensuite, la mairie donc, a repris suite à des actions, notamment de l'association Barrage. Et ma facture 2003, donc là, j'arrive à 327 euros pour 109 mètres cubes.
Donc c'est à peu près la même quantité?
Oui, 2 mètres cubes de plus, et puis la différence... voilà.
19h25, vous écoutez France Info, les titres du prochain journal. Catherine Potier.
Les députés ont adopté le projet de loi sur l'énergie qui ouvre la voie à la privatisation de Gaz de France. Des milliers d'employés de GDF ont manifesté contre ce texte aujourd'hui dans les rues de Paris. Reportage dans quelques minutes.
Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez... là, on parle de remunicipaliser l'eau parce que le service privé était plus cher que le service public au palais. Et qu'en même temps, on entend sur France Info, à la radio, qu'il va y avoir une privatisation de Gaz de France au profit d'un autre professionnel de l'eau qui est Suez.
Si on avait voulu un grand pôle d'énergie, pourquoi avoir cassé le pôle EDF et GDF? Il fallait revenir à ce grand pôle d'énergie. Rien ne justifie de mettre le privé dans cette question de l'énergie. Moi, je pense que l'énergie... Les transports, l'eau, ce sont des domaines qui doivent rester dans le secteur public. Et c'est pour ça que, bon, moi, tout naturellement, je me trouve sur l'eau, mais je me retrouve sur les questions d'énergie. Je me suis trouvé dans des réunions de défense des services publics. C'est vrai que je ramène souvent l'exemple du palais et de ce qu'on a réussi à faire au palais, et ça aide à l'espoir, quoi, je dirais. Le problème de l'eau est particulièrement intéressant en France parce que on a trois groupes. Ils gèrent 70 à 75% de l'eau en France. Et la France, du point de vue gestion de l'eau, est présentée en Europe comme un modèle. C'est en France où on a le plus privatisé l'eau.
Donc là, pour une fois, on est à l'avant-garde.
Dans le monde, il y a quatre sociétés qui gèrent la quasi-totalité de l'eau. La plus grosse qui est ici, dans les quatre sociétés, il y en a trois françaises. Et la plus grosse, donc Veolia, prétend gérer l'eau de 2 milliards 700 millions d'habitants sur les 8 milliards. C'est dire quel monstre c'est. Et c'est vrai qu'ils parlent à égalité avec des chefs d'État, etc.
Donc le numéro 1 français et aussi le numéro 1 mondial.
Le numéro 1 français, le numéro 1 mondial.
Derrière le quartier des affaires, par exemple, voici l'autre Shanghai. Ici, on partage un robinet à 6 ou 8 familles. Les autorités espèrent changer le système sans étape intermédiaire. S'investir en Chine, c'est bien sûr identifier des besoins, mais c'est aussi apprendre la patience. Le contrat qui lie Veolia à son partenaire chinois est de 50 ans.
Alors, le modèle français, on l'exporte dans les pays africains. On l'exporte dans les pays d'Amérique du Sud. On travaille beaucoup avec des pays comme le Brésil. Par exemple, Veolia est présente en Arabie Saoudite. Là, il y a vraiment un modèle qui reste un modèle négatif. Il faut que l'eau bien publique ne soit pas une marchandise.
Il y a à cette hégémonie, à cette puissance, une histoire. Et une histoire bien française sur laquelle s'est penché Marc Lémé. Marc Lémé est journaliste, il avait commencé par enquêter sur ces histoires d'eau, et il s'est spécialisé là-dedans, et maintenant il est un peu l'un des conseillers en remunicipalisation. Marc Lémé, une histoire.
En France, 80% de la population reçoit de l'eau qui est donc produite ou le plus souvent distribuée par Veolia, par Suez et par la Sorb. Alors là, c'est vraiment une autre forme d'exception française, puisqu'à l'échelle mondiale, il y a seulement 5 à 6% de la population mondiale qui est desservie par des opérateurs privés.
Dans le monde, oui. C'est à hauteur de 6% de la population qui est servie par le privé en matière d'eau.
Tout à fait.
Et en France, c'est 80% de la population.
80% pour la distribution de l'eau potable. Donc là, c'est vraiment une situation tout à fait particulière qui fait que on compte en France trois entreprises, dont deux qui sont devenues les leaders mondiaux des marchés, puisque c'est devenu des marchés de l'eau, de l'assainissement et désormais de l'environnement.
Comment vous expliquez la mainmise de ces entreprises privées sur un service public, sur le service public de l'eau ?
En fait, ce qui s'est passé au 19e siècle, les gouvernements de Napoléon III ont choisi de construire en priorité des écoles et des hôpitaux. Et la gestion de l'eau, etc., tout ça, un peu dans la lignée de ce qui s'était fait avec le chemin de fer dans la partie des années 1830-1840, on a considéré qu'on pouvait le confier à des entreprises privées. Donc la Générale des Eaux est créée par décret napoléonien en 1853, et il y a une première période de développement extrêmement rapide de ces entreprises, qui va en gros jusqu'aux années 1880, où elles commencent effectivement à engranger des contrats très importants. C'est de cette époque que date l'emprise de la Générale des Eaux, qui s'appelait déjà comme ça, sur les villes de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Nantes. Là, il y a une date extrêmement importante, c'est qu'en 1884, il y a une loi qui établit pour la première fois que les maires et les conseils municipaux devront être élus au suffrage universel. Et là, il y a une vraie rupture, il y a un vrai retour de balancier. Et les forces de gauche de l'époque, qui sont essentiellement radicales et socialistes, vont développer ce qu'on appellera plus tard le socialisme municipal. Et là, on n'imagine pas la violence des polémiques de l'époque. Dans l'Humanité de Jaurès, dans les années 10, il y a eu notamment une campagne de presse conduite par l'UMA, par Jaurès, mais pendant 6 mois, pour se battre contre la privatisation de l'eau à Paris, mais avec une violence insoupçonnée. Ces entreprises étaient traitées de tous les noms. Enfin, c'est-à-dire qu'on les décrivait exactement pour ce qu'elles sont.
Donc, si on revient à notre chronologie, première phase, c'est la naissance, la génération des eaux, de la lyonnaise des eaux, de ces entreprises privées, 1850 à 1880. Ouais. Deuxième phase, suite aux élections municipales, suffrage universel, il y a des retours en régime municipal. Troisième phase, c'est...
L'après-guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale également, tout le programme de nationalisation de 1945 va laisser de côté la Générale et la Lyonnaise des Eaux. Il y a un besoin d'infrastructures absolument énorme. Et donc, comme on n'a pas nationalisé ces entreprises, elles vont retrouver un nouvel élan. Et là, elles vont se développer, mais avec une rapidité absolument phénoménale. Et on a finalement l'avant-dernière phase qui va débuter à partir des lois de décentralisation de 82-84. Alors là, ça a été une véritable catastrophe. À partir de 82-84, quand Gaston Defer, à l'Assemblée, proclame la libération des élus, là, on est entré dans une phase, alors il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est donc la première phase décentralisation 82-84, l'explosion des affaires politico-financières au début des années 90. C'est directement lié. Il n'y a plus de contrôle, et là, il y a des chiffres qui sont quand même extrêmement, emblématiques, quoi. De 1985 à 1995, la Générale des Eaux a engrangé davantage de contrats en France qu'elle ne l'avait fait depuis sa création en 1853 jusqu'en 1985. En l'espace de 10 ans, ils ont récolté davantage de contrats qu'en un siècle. Donc là, il y a une croissance absolument phénoménale de ces entreprises, et c'est dans la même période que... parties, comme on vient de le voir, de l'eau de l'assainissement, elles ont successivement conquis tout ce qu'on appelle les services de la ville, c'est-à-dire les secteurs de la propreté, du chauffage, de la restauration, des transports, des parkings, des pompes funèbres, jusqu'en 2000, où elles s'en sont dessaisies, ces trois entreprises étaient propriétaires de TF1, de M6, de Canal+. À un moment, elles ont détenu près de la moitié de l'édition française, et elles sont encore aujourd'hui parmi les tout premiers annonceurs publicitaires français.
Vive les barrières !
Merci. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci de faire que ce jour soit le plus beau jour de notre vie. Merci pour tout. Et merci à l'eau du robinet.
Eh oui, l'eau du robinet, c'est aussi pour la vie. Alors tous les jours, les entreprises de l'eau avec les mairies nous délivrent une eau du robinet que nous pouvons consommer en toute confiance.
Merci. Merci pour l'eau.
C'était un message des entreprises de l'eau avec l'Association des maires de France.
Je fais le tour.
Bonjour, madame. Yvan, c'est par là.
Et alors?
Vous allez bien? J'avais fait le tour.
J'ai dit non, parce qu'il y a trop mouillé, j'ai dit.
D'accord.
Asseyez-vous. Vous payerez pas plus cher. Bon, alors, ce que j'ai retrouvé dans mes affaires, voilà ce que j'ai retrouvé, les dates à peu près de ce que je donnais. Et soi-disant, monsieur Tricard a gardé ma lettre. Vous l'avez retrouvée?
Oui.
Ce qui
avait d'intéressant, c'est que dans cette lettre, vous étiez la première à attirer l'attention sur la question de l'abonnement, en disant, moi, je suis une petite consommatrice d'eau, je consomme, vous consommez combien?
En ce moment, 12 mètres cubes.
Oui. Combien?
12 mètres cubes.
Par an?
Oui. Et vous en dépensez combien par mois? Premièrement, moi, je fais les économies. Je ne vais pas me doucher tous les matins et soirs. Je me douche une fois par semaine et puis je sens aussi bon que les autres. Enfin, bref.
Vous touchez juste une petite retraite, c'est
une
ça?
Une demi-retraite, oui, monsieur.
Une demi?
Une demi-retraite. Eh bien, parce que mon mari, il travaillait au chemin de fer, mais moi, comme je n'ai pas travaillé, donc j'ai qu'une demi-retraite.
Et donc, vous, quand vous avez vu les factures de la SORP, vous les avez vues augmenter tous les ans? Comment ça se passait? Vous faisiez attention à ça ou vous ne faisiez pas attention?
Oh, ben si, quand même. Et puis, c'était surtout la question d'abonnement. L'abonnement, on n'avait pas payé d'abonnement puisqu'on avait payé, le compteur était acheté. Bon.
Et vous payez combien d'abonnements à ce moment-là?
Oh, je ne sais rien. Je vais vous dire ça à peu près. C'est que sur mes lunettes. Oh, merde. Voilà, 443 francs. Oui, parce que c'était pas c'était qu'en 2000.
Ça, c'était que l'abonnement?
C'était l'abonnement qui ne correspondait à aucun service.
Ça, c'était 500 francs, c'était pas l'eau, c'était juste l'abonnement?
C'était l'abonnement.
Pour une facture de 13 mètres cubes, elle devait payer aux alentours de 750 francs par an. Dont 500 francs d'abonnement qui ne correspondait à aucun service. Et c'était là le problème.
Donc là, vous avez une facture, mais c'est une facture municipale.
Ça, oui, c'est la municipale. Alors maintenant, vous voyez, tout nouveau net, je ne paye que 50 euros.
Vous avez consommé 17 mètres cubes et c'est 3 euros le mètre cube, donc ça fait 3 fois 17. Il n'y a plus du tout d'abonnement.
Donc vous avez divisé votre facture par 3 presque.
Ah oui, facilement. Facilement. Oui.
Là, c'est la pluie qu'on entend dehors ?
Oui, je crois que ça résonne.
Vous n'avez pas besoin d'arroser votre jardin ici ?
Ah oh là, non, non, je récupère l'eau.
Donc ça, c'est encore pour faire des économies d'eau.
Ah bah, tout le temps, oui, parce que mon jardin, il n'a pas été beaucoup arrosé qu'avec que de l'eau de la pluie. Hein. C'est tout. Pour l'ensemble, j'ai reparti mes enfants. Ça buffe.
Donc vous faites un petit jardin derrière, des haricots, vous avez ?
Oui.
Ouh là 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 là.
Je m'en sers pour mes cabinets, je m'en sers pour rincer. Là-haut, c'est la même chose.
Vous vous en servez pour vos cabinets ?
Ouais, je prends mon petit seau et je tire pas la chasse.
Vous êtes vraiment une obsédée de l'économie d'eau, vous ?
Ah, mais dites donc, c'est moi qui paye. Hein. J'ai deux arrosoirs là que j'ai lavé la bol bois. Voilà.
Vous avez lavé votre entrée avec l'eau de pluie ?
La pluie, là, avec l'eau, là, oui. Oh là là, oh là là, les enfants. Tout à l'heure, c'était pareil. J'étais au milieu de l'allée, j'ai cru que j'allais être emporté.
Il n'y a pas de petite économie avec Madame Thierry. Alors, remunicipalisation au Palais-sur-Vienne, c'est pas le seul endroit en France. On va voir d'autres endroits qui ont remunicipalisé. Et puis, c'est une grande question qui travaille beaucoup de régions, de municipalités. Et puis, il y a des échéances prochainement, élections 2008-2009. On verra que c'est un problème très important, un sujet très important pour la bonne ville de Paris. En 2006, au début de cette année, UFC Que Choisir a publié une enquête qui a fait un certain bruit en montrant que dans 31 villes françaises, on note des écarts étranges de tarifs en matière d'eau. Par exemple, à Lyon, eh bien, la ville de Lyon fait payer son eau presque deux fois plus cher que son prix de revient. C'est pas la ville de Lyon qui fait payer, c'est ces grosses sociétés municipales. Multinationales à Nantes, Strasbourg, c'est une fois et demie plus cher que le prix de revient. Et en Île-de-France, record, deux fois et demie plus cher. Alors, bien sûr, les opérateurs qui sont visés par ces publications d'enquête, la main sur le cœur et bourré d'arguments, disent « mais non, vous confondez, vous avez quel... » Enfin, c'est quand même un sujet important. Et on va... comprendre avec Marc Némé, on va essayer de comprendre, il va essayer de nous faire comprendre comment fonctionne, comment on en est arrivé à ces remunicipalisations.
Vous avez établi un peu les différentes étapes qu'il y a eu en France. D'abord, naissance et croissance de la Générale des Eaux, retour en service municipal, à nouveau, après la Deuxième Guerre mondiale, une très forte croissance. Est-ce que vous pensez qu'il s'annonce aujourd'hui un nouveau retour de balancier vers un service public de l'eau ?
Alors, ce qui se passe en France depuis maintenant 4 à 5 ans, disons, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation des citoyens. Alors, des associations dans des petits villages, dans des plus grandes villes, des associations de défense de l'environnement, des associations de consommateurs, ATTAC, Les Verts, La Ligue, enfin bon, tout ça quand même assez lié à la période Alter, etc. Bon, donc tout ça, ça a concouru à ce qu'il y a une remise en cause depuis quelques années beaucoup plus importante de ce modèle de délégation de service public. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est il y a à la fois des associations qui se créent, des collectifs, alors des élus aussi, parce que quand même les élus sont de plus en plus informés des dérives du système. Et comme il y a une pression financière de plus en plus importante, vous ne pouvez pas, les yeux fermés, laisser les entreprises augmenter le prix de l'eau à l'infini, etc. etc. Les gens qui vous ont élus vont vous rappeler à l'ordre au bout d'un moment. Donc ça devient très sensible pour les élus aussi.
Tous les éléments sont rassemblés là pour un retour
Non, je dirais pas, non, faut pas exagérer, parce que statistiquement, aujourd'hui, il y a aujourd'hui 9000 contrats en France. On est dans une période de renouvellement de 5 à 600 contrats par an. On est encore aujourd'hui dans un système où 95% de ces contrats sont reconduits au même délégataire. Si c'était Veolia qui était là depuis 30 ans, c'est lui qui continue. 2 ou 3%, ça passe de Veolia au Suez, ou l'inverse. On a une toute petite minorité de contrats qui sont impartis à des toutes petites entreprises locales, etc. Et les retours en régie se comptent encore sur les doigts d'une main. Sauf que c'est très emblématique, très fort, à chaque fois que ça se passe, il y a un véritable impact sur la population, parce que ça se traduit, c'est imparable, hein, très souvent une diminution du prix de l'eau parce que les bénéfices servis aux actionnaires disparaissent, une amélioration du service à l'usager parce qu'il y a moins de taux de fuite, il y a un meilleur entretien, il y a davantage de renouvellement des infrastructures, donc localement, ça fait de l'effet. Et donc, quand une ville a accompli ce boulot-là, bah, tout le monde constate, donc ça fait un peu tache d'huile, quoi.
Alors, comment vous expliquez le décalage entre seulement 2% des contrats qui passent du secteur privé en régie publique?
C'est vrai qu'il y a une mobilisation citoyenne depuis plusieurs années, mais sont dramatiquement absents les syndicats, les partis politiques, l'université, le monde de la recherche, qui n'accompagne pas ce mouvement de retour à une gestion publique. On a là vraiment des grands absents, des muets du sérail. Alors je vous laisse le soin de tirer les conclusions de leur absence et de leur silence. Il n'y a pas un parti politique qui ait vraiment, mais sérieusement, mis ça au premier plan de son projet. Il n'y a pas un syndicat qui s'engage réellement en ayant travaillé pour un retour à une gestion publique de l'eau. L'université, elle n'est pas là. Ben, les labos universitaires travaillent, hein, notamment pour ces entreprises, le plus souvent. Hein. Donc ce sont quand même des acteurs de poids qui ne prennent pas vraiment position.
Des acteurs de poids qui ne prennent pas vraiment position, nous dit Marc Pémé. On verra dans la suite des reportages avec François Ruffin que ces grandes compagnies très 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 puissantes ont les moyens d'aider un petit peu les syndicats, mais indirectement, en publiant des pages de pub dans des revues professionnelles. Les politiques avec des droits d'entrée, on aide une municipalité. Lorsque on signe le contrat pour, et que la régie est attribuée à telle ou telle société privée, eh bien, il y a un droit d'entrée, c'est-à-dire que la municipalité pourra, pour le plus grand bien des administrés, construire un gymnase, une piscine, un tennis, et puis sans augmentation notoire des impôts. Et on s'aperçoit, ces impôts, tout ça, qui le paye? Eh bien, c'est sur les factures, mais il faudra du temps pour qu'on s'en aperçoive. On s'en est aperçu, et c'est ce qui explique en partie cette remunicipalisation. Quant à l'université, aux chercheurs, acteurs importants, ils ne sont pas là non plus. On verra, on s'intéressera à ça prochainement sur où va la recherche, sauvons la recherche. Quant aux médias, ces multinationales sont propriétaires, tout simplement, des médias, ce qui ne va pas quand même sans incidence sur les lignes rédactionnelles, ou bien alors, sont des annonceurs de premier plan, et ce qui ne va pas non plus sans incidence sur les lignes rédactionnelles. Ce qui fait qu'on est, c'est des fois des petites assos comme ça, dans un petit coin, qui sont des poils à gratter, extrêmement têtus, des arapèdes, qui finissent parfois par l'emporter, même si, effectivement, il arrive que le terroir n'y soit pas pour rien.
Donc là, on est toujours en Haute-Vienne, ici ?
Oui, on est toujours en Haute-Vienne. Là, on se rapproche de toute la région des Moutiers. Et cette région des Moutiers et du plateau de Millevaches a une caractéristique importante, parce que c'était dans cette région que se trouvait le fameux maquis de Guingouin, donc qui a été désigné par De Gaulle, donc ce qui n'est quand même pas une petite chose, comme le premier maquis de France. Ici, c'était un domaine où il s'était nommé le préfet du maquis, et où les Allemands, pendant toute la guerre, n'ont pas pu rentrer depuis 1942. C'est le préfet du maquis qui déterminait les prix des aliments, qui déterminait, etc. Et ça a été une histoire. C'est une terre de résistance. Voilà, ici, on rentre dans une terre de résistance assez importante. Alors, cette terre de résistance, elle a tout un passé, parce que c'est vrai que c'était d'ici que partaient les maçons qui ont construit Paris, ces maçons du Limousin, donc les Limousinons, partaient de la campagne et allaient construire Paris pendant la période d'été et ils revenaient en hiver. Et c'est vrai qu'ils sont revenus après la commune de Paris, ils sont venus et il y a beaucoup d'anciens de la commune de Paris qui se sont réinstallés dans leur village, mais avec les idées de la commune de Paris. Donc ce qui fait qu'ici, on a toujours été une terre rebelle. Ici, c'est pas un hasard si, bon, la CGT en 1905 s'est créée en Limousin, à Limoges. Mais ça reste une terre rebelle avec un certain nombre d'élus un peu alternatifs, un peu qui ça vote à gauche très largement. Ça reste une terre de résistance profonde. C'est pas un hasard si pas très loin d'ici, à Gensioux, il y a un monument de la guerre de 14-18 qui n'est pas reconnu par les armées, parce qu'il représente un enfant qui est en sabot, qui tend le poing et écrit dessous « Maudite soit la guerre ». Et à Gensioux, tous les ans, au mois de novembre, le 11 novembre, c'est là où se réunit la manifestation nationale des pacifistes. Là, on arrive à l'étang de Bujaleuf. C'est un barrage qui fournit de l'électricité encore. Donc, les gens ici, les collectifs se battent pour garder ces barrages que l'EDF a tendance à fermer. Tout le long de la Vienne, il y avait des petits barrages qui fournissent de l'électricité, mais en petite quantité. Et là, depuis les nouvelles normes européennes, l'EDF n'est plus obligé d'acheter de l'électricité à ces barrages. Ils sont condamnés de leur belle mort. On a déjà plusieurs barrages qui ont été fermés et qui ne fournissent plus d'électricité. Oui, bien sûr.
Champignon, il y a la plaque numérologique. Ça va. Ah, Michel, tu voulais monter?
Ouais, je vais attendre.
Attends. Oh là 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 là. Je suis avec mes seringues.
Ouais, tu te shootes, là, ou quoi?
Vous êtes maire et agriculteur, c'est ça?
Effectivement. La commune a fait l'expérience d'une période sous l'égide de la CGE. Économiquement, le coût de l'eau était relativement élevé et sans que des investissements qui étaient nécessaires à l'époque soient effectués sur le réseau.
Il y avait des investissements qui n'étaient pas effectués?
Ben, nous avions un réseau relativement obsolète ou vieillissant et une pertinence de rendement de l'ordre de 50-55%.
Un rendement de 50%, ça veut dire qu'il y a 1 litre sur 2 qui arrive dans le robinet et 1 litre sur 2 qui part en fuite, c'est ça?
En clair, c'est ça. C'était dû à des ruptures de canalisation qui, multipliées par un grand nombre, nous donnent un volume d'eau perdu exorbitant. Et
qu'est-ce qui change quant aux factures, quant à tout ça, par rapport à quand c'était Veolia, Vivendi?
Bah écoutez, aujourd'hui, on a la recette de l'eau vendue et les investissements. Hier, nous n'avions pas de recette et nous aurions eu des investissements à faire que malheureusement ont été repoussés.
Comment on peut accepter que ça soit d'autres qui perçoivent des recettes alors que c'est vous qui faites les dépenses? Comment?
La question est excellente. Personnellement, j'ai plus grande difficulté à accepter un point de vue de cette nature-là.
Là, il y a un bulldozer, c'est quoi?
Nous arrivons sur le chantier eau, sur une pose de canalisation qui va mettre fin à notre dernière phase d'objectif canalisation.
Voilà, objectif, canalisation pour M. Delay, le maire de Bujaleuf. Et alors là, parmi les agents municipaux, on rencontre M. Frédéric, qui sait de quoi il cause, M. Frédéric.
Donc là, il y a une tranchée qui est creusée le long d'un champ.
Nous changeons l'approvisionnement d'une ferme. Le tronçon d'avant était défaillant, d'où les fuites très nombreuses.
Donc là, en tenue fluorescente, c'est des employés de la ville?
Les employés municipaux qui, cette semaine, sont concentrés sur ce type de travail.
Bonjour.
Bonjour. Alors là, nous allons faire une extension de réseau pour alimenter une maison qui se trouve à 450 mètres.
Et c'est vous qui étiez technicien de Veolia auparavant et voilà. Qui est passé en régie municipale.
Voilà.
Mais pour quelle raison?
Pour en arriver à faire quelque chose de bien. De...
Parce que quand vous étiez chez Vivendi, c'était pas bien?
Non. En fait, Vivendi, vous êtes un pion. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, on vous envoie à l'autre bout de la France parce qu'on en a décidé ainsi. Vous avez un numéro, un matricule d'ailleurs chez Vivendi. Vous avez un matricule et puis...
Vous étiez matricule combien?
J'étais en matricule 122, je sais plus, après, c'était quelque chose comme ça. Le gros problème, c'est vous êtes ici, aujourd'hui on vous dit, vous n'allez plus être ici parce qu'on a besoin de vous autre part, il faut y aller. Tout ce que ça encombre derrière, hein, vous avez votre femme qui perd son emploi, c'était ça le gros problème. Hein. Maintenant, ça fait depuis 2002, oui, j'ai acheté une maison, hein, et puis j'ai mes trois enfants et je vis très bien ici à Bujaleuf.
Et vous avez passé combien d'années alors chez Vivendi?
8 ans chez Vivendi, ouais.
Là, bon, en plus il pleut là,
oui.
C'est vraiment le temps pour faire un reportage sur l'eau.
Moi je voyais qu'on avait des réseaux qui étaient en perdition et puis avec des rendements de réseau qui étaient, qu'on n'avait jamais vu, 40% de rendement de réseau, donc 60% de fuite.
C'est-à-dire que 6 litres sur 10 partaient dans le sol.
Voilà, en fuite. Une perte énorme. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, maintenant, avec les sécheresses qu'il y a et tout, on se demande comment on aurait pu faire, quoi. Si on avait continué avec la Générale des Eaux, il aurait fallu rouler des camions d'eau. Hein. Et puis, non, on faisait rien pour la commune. Il n'y avait rien investi. Par contre, eux, ça tombait, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait affaire à des gens qui pensaient qu'à l'argent, quoi. Par contre, c'est vrai que maintenant, on s'est donné les moyens de faire bien, quoi. On voulait de l'investissement, on en a fait. On a acheté un tractopelle tout neuf. On a voulu faire de la facturation comme on fait de la facturation aujourd'hui, c'est-à-dire on a un terminal de saisie portable, on relève chez les gens, on fait un suivi qualité d'eau, donc on a un programme de suivi qualité d'eau qu'on fait toutes les semaines, on surveille notre eau.
Et vous avez connu le privé,
voilà.
Vous connaissez aujourd'hui le public.
Attention, j'ai pas dit que la Compagnie Générale des Eaux, c'était des gens qui savaient rien faire et tout, hein. Au contraire. Mais par contre, je regrette beaucoup, c'est qu'ils soient dirigés par des banquiers. Et puis beaucoup de gens qui sont improductifs.
C'est-à-dire, c'est quoi des improductifs?
Et des improductifs, c'est des gens qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ouais, ils sont dans des bureaux, on leur donne un bureau, ils arrivent dans des directions régionales et ils sont payés, bien sûr, des salaires de 4 gars d'un seul coup. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'ils font.
Quand vous étiez chez Vivendi, il y avait plus de personnel pour le service commercial que pour le service de...
Oui, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de personnes sur le terrain, puis au détriment des réseaux, bien sûr. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière, je ne reviendrai pas dans le privé. Hein. Parce que, je vous dis, vous avez affaire à des banquiers. On travaille... c'est des banquiers qui dirigent des sociétés. Comme je vous disais, on leur parle d'une bouche à clé, d'une vanne, d'un tuyau, de polyéthylène ou PVC, ils vous regardent avec des... On est carrément à l'autre bout de la réalité, quoi.
Ils ne parlent pas comme des industriels, ils parlent plus comme des banquiers, comme des...
Exactement. Voilà. Et tout ça pour satisfaire des actionnaires derrière.
Et ça, vous le sentiez quand vous étiez chez Vivendi?
Ah, mais carrément.
Et là, vous rêvez, amis auditeurs, chers AMG, vous vous dites, mais on va remunicipaliser dans la commune. Eh ben oui, et ben on vous donnera la recette demain, il faudra tenir jusqu'à demain. C'était un reportage de François Ruffin, merci à tous, merci à Madame Briquet, à Gilles Martin, Yvan et Michel Tricard, Madame Chauffier, Monsieur et Madame Sénigou, Madame Thierry, Michel Paquet, Monsieur Delay, Frédéric et le journal Creuse Citron. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, que vous pouvez également réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Mathias Allion et Loïc Frapsos, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Yello et de Christophe Imbert, qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Allez, un peu de réclame.